Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec mon invité d'aujourd'hui, on va aller creuser cette notion qui semble plutôt moderne, celle du give back. Mais l'est-elle vraiment ? Eh bien, on y va pour les détails.
Médien, Yasmine, version homme.
Et Hamza Al-Maraï, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être ma version homme de femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Hamza ?
Très bien, merci pour votre invitation.
L'optimisation et la transformation, c'est votre créneau. C'est votre créneau dans la vie aussi ou principalement professionnellement ?
En fait, quand on fait un métier, on essaie de l'avoir en 360. Effectivement, l'optimisation et la transformation, c'est non seulement mon métier, mais c'est aussi une vocation que j'ai et j'espère pouvoir avoir une petite touche sur la société pour amener une petite transformation à mon échelle.
Ok, alors on va y aller petit à petit. Est-ce que par rapport à vous-même, il y a eu un moment de grande transformation, de grande révélation, de grand changement ?
Oui, pour ma petite personne, oui.
Oui, absolument, personnellement.
Personnellement, oui, j'ai eu une grande transformation quand j'étais petit et je voyais mes parents essayer de transformer la société en nous donnant accès à une éducation de qualité et aussi en nous parlant de sujets qui étaient plus grands que nous, tels que l'égalité homme-femme, tels que l'accès à l'éducation pour tous, tels que l'équité sociale et sociétale. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué.
Ça vous a façonné peut-être, mais pas transformé.
Ce qu'on peut parler d'une phase de transformation, je pense que chaque jour on se transforme, enfin on évolue. L'évolution est une transformation soft, si on peut dire. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je m'y attache énormément. Mais j'ai pas eu de moment où j'ai été transformé.
Ouais, le moment de la révélation.
Non.
Vous auriez voulu, justement, maintenant qu'on en parle, vous auriez voulu avoir le moment de votre vie, le moment marquant, le moment de la transformation ?
Là, en y pensant un peu plus, oui, il y a eu un moment de transformation, c'est les années d'études universitaires. J'ai eu la chance d'avoir accès à des études universitaires après bac à l'université La Khawen. Et effectivement, c'était une expérience transformante pour moi parce que... Effectivement, on a eu non seulement la chance de pouvoir faire des études académiques, mais aussi d'avoir une qualité de vie qui nous transforme dans la manière de voir les choses. Parmi les choses qui m'ont marqué, qui m'ont transformé, c'est que pour avoir notre diplôme de l'université à Khawen, il faut faire 60 heures d'heures sociales. Et en faisant ça, en fait, on est touché par ce qu'on voit la société marocaine, surtout dans les régions reculées du Maroc. Et ça m'a vraiment transformé dans ma vision de la chose par rapport à ce qu'on peut apporter à notre pays. Donc oui, il y a eu un avant et un après sur ce volet-là.
Alors, un avant et un après qui continue, parce que j'ai cru comprendre justement que vous avez quitté l'université, mais vous continuez à garder un lien d'attache avec l'université et avec la communauté autour de l'université.
Tout à fait.
Beaucoup d'universités qui ont un campus, c'est la vie de campus en fait qui donne ça, je crois.
Exactement, c'est la vie de campus, mais en plus de ça, la spécificité de l'université La Khawen, c'est que c'est une université avec un système qui s'appelle Liberal Arts System, nord-américain, qui donne une importance capitale à la vie de campus, à la vie commune, et ce qu'on fait à côté de la vie académique. En fait, tout le monde peut avoir des diplômes, mais c'est pas tout le monde qui a les outils pour pouvoir agir sur la société et sur son entourage. Effectivement, je continue à être impliqué dans la vie d'après en étant le président de l'association des lauréats de l'université La Khawen, que je sers avec grand plaisir et avec un grand bonheur à travers ce poste-là, les 7400 lauréats.
Alors, par rapport à ça, justement, vous êtes quand même un homme engagé pour l'éducation de tous, mais surtout, vous avez un faible pour l'éducation de la jeune fille rurale marocaine.
Tout à fait. En fait, moi, je pense que l'ascenseur social, l'évolution sociale au niveau, à l'échelle micro de la société, passe par l'école, et l'évolution de tout pays passe par l'école et par l'éducation. Et quand, en fait, on regarde les études qui ont été menées, et puis la réalité aussi le prouve, c'est que quand il y a une femme qui accède à l'éducation, non seulement elle change sa réalité à elle, ses conditions à elle, mais elle change les conditions de tout son écosystème, c'est-à-dire ses parents, ses frères et sœurs, la famille en général. Et puis, elle est beaucoup plus, elle a beaucoup plus d'impact que l'homme. Donc effectivement, c'est un sujet qui est très important pour moi. Et en plus, quand on regarde les chiffres, c'est les femmes et les filles issues de milieux ruraux qui ont du mal à accéder aux études après bac, pour des raisons culturelles, pour des raisons logistiques, il y a plein de raisons. Et donc, si moi, à mon petite échelle, je peux contribuer à l'amélioration de ces conditions-là, bon, je serai plus heureux, parce que effectivement, c'est comme ça qu'on peut arriver à une égalité et une équité homme-femme.
Et pour faire ça, justement, vous organisez un événement dans lequel vous attirez toute la communauté qui a étudié avec vous.
Tout à fait. Donc en fait, les 7400 lauréats, on les invite à contribuer pour donner la chance qu'on a eue. On a eu cette chance incroyable d'avoir accès à une éducation de qualité. On ne veut pas que ça soit limité à nous. On veut donner la même chance qu'on a eue à d'autres personnes. Et ces personnes-là, c'est des jeunes filles du monde rural qui ont un excellent background académique et un dossier académique, lycée en général, pour pouvoir accéder à des études de qualité à l'Université de Hawaï en payant zéro dirham, c'est-à-dire complètement boursière. Et c'est les 7400 lauréats qui sont invités à contribuer à une levée de fonds pour avoir assez de fonds pour des bourses, pour donner cette chance à ces jeunes filles. Et c'est à travers ça, en fait, c'est non seulement un cadeau pour l'université qu'on fait, mais c'est aussi un cadeau pour ces filles-là et pour la société tout entière et pour notre pays qui nous tient vraiment à cœur.
Cette notion de give back, justement, et d'ailleurs on le dit en anglais parce qu'on a l'impression que c'est une notion anglo-saxonne, mais elle est très ancrée dans notre contexte marocain aussi. Bénéficier et en faire bénéficier d'autres, cette génération à laquelle vous appartenez, est-ce qu'elle en est davantage consciente, vous pensez ?
Alors,
de par l'anglo-saxonisation de l'expression, give back.
Effectivement, en fait, moi je pense que c'est ancré, c'est de plus en plus ancré dans la société. De par notre culture marocaine a aussi cette notion de give back. Et en fait, je pense que toute personne qui a eu la chance d'avoir un confort matériel ou un confort éducationnel ou un confort, il a l'obligation éthique, religieuse, culturelle, tout ce qu'on veut, to give back. Et je pense que les gens sont en train de prendre conscience de cette notion. Ils sont en train d'essayer de vraiment l'actionner dans leur quotidien. On est en train, je pense et je l'espère, en tout cas, de s'éloigner de plus en plus de la logique de l'Hemza. Chacun va chercher son petit profit matériel, son entourage, à une notion de donner et de contribuer pour améliorer la vie des gens qui nous entourent ou la vie de la société en général. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus chez les jeunes. Moi, à chaque fois, par exemple, le mois de Ramadan, on voit des caravanes et des aides alimentaires qui sont organisées par des jeunes et des très jeunes. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important, en fait, et on est en train de le voir chaque jour sur la société. Donc, c'est quelque chose qui me réjouit, en tout cas, et j'espère que ça va continuer à grandir.
Alors,
c'est une notion américaine, effectivement.
C'est une notion américaine, exactement. Vous avez été installé à Paris pendant, en France pendant une période, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et puis, vous avez décidé de rentrer?
Oui, tout à fait.
C'est cette notion de give back qui vous a fait rentrer?
Oui, en fait, give back aussi... En rentrant, enfin, moi je pense que tout Marocain qui est installé à l'étranger, quand il sort de son, quand il prend un peu de recul par rapport à son quotidien, il peut remarquer que il peut avoir une valeur ajoutée significativement plus importante au Maroc que là où il est, parce que notre Maroc est en train d'évoluer de façon significativement plus importante que les pays européens, que les pays occidentaux, et donc en fait la marge de manœuvre est beaucoup plus importante au Maroc. Donc c'est aussi une façon de give back. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir un pays avec un nombre de jours de soleil qui est quand même considérable, chose qui augmente la dopamine de façon significative. Donc en fait, c'est joindre l'utile à l'agréable. Et oui, c'est aussi une façon de contribuer à l'évolution de ce pays qu'on adore et qu'on aime énormément.
Alors, vous êtes un jeune homme, un jeune trentenaire, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Alors, on dit que construire en même temps sa vie, c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué de devenir propriétaire, c'est compliqué de fonder une famille, tout est compliqué. Est-ce que c'est vrai?
Je pense que ça l'a toujours été. Je ne pense pas que ça soit plus compliqué aujourd'hui qu'avant. Sur certains aspects, oui, certainement. Sur d'autres aspects, moins. Les générations d'avant ont eu leurs contraintes aussi. Mais l'être humain est beaucoup plus, est de plus en plus nostalgique. On pense toujours que c'était mieux avant. J'en suis pas certain. Je pense que chaque génération a ses contraintes, ses facilités. Aujourd'hui, on a accès à l'information de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus démocratique qu'avant. Et puis, il y a d'autres contraintes qui viennent. Puis voilà, c'est l'évolution de l'être humain. Mais je pense que aujourd'hui, enfin, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. Mais comme tout le temps, ça, c'est l'histoire de l'humanité.
C'est le contexte vous fait pas forcément peur?
Non, c'est un contexte bien au contraire. C'est un contexte qui me... Je reste optimiste quand je vois, par exemple, qu'il y a des débats qui quand même commencent à s'installer au Maroc. Par exemple, les débats concernant les libertés individuelles, les débats concernant l'égalité homme-femme, et surtout sur un volet qui est quand même très, 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 très sensible. L'héritage, ça commence. On n'en est pas encore très avancé, mais en tout cas, c'est un sujet quand même qui mérite débat. On peut être contre, on peut être pour, on peut débattre, attaquer le sujet de façon vraiment différente. Mais en tout cas, je pense que débattre, c'est quelque chose qui est quand même essentiel. Et c'est ce qui me rend optimiste, en fait, par rapport à l'époque où on est aujourd'hui, parce qu'il y a des changements qui vont venir et qui commencent à émerger. Et voilà, on doit s'en réjouir.
Alors, le jeune homme que vous êtes, justement, par rapport à cette question de l'héritage, à votre avis, qu'est-ce qui fait que beaucoup d'hommes et des femmes aussi dans notre société sont contre cette évolution-là?
Alors, vous avez bien raison, parce que la problématique, en fait, est surtout côté femme, plus que côté homme. Mais oui, il y a aussi une réticence côté homme. Mais je pense que c'est une mauvaise compréhension de la chose religieuse. Donc, mais les consciences sont en train d'évoluer. Et plus on a accès à l'éducation, plus on a de la chance et de la probabilité d'avoir une meilleure compréhension, un peu plus critique de ce qu'on pense comme étant gravé dans le marbre. Et puis, le plus on peut évoluer. Donc moi, je pense que ça vient de là, de cette mauvaise compréhension. Et cette mauvaise, c'est le débat. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le débat est essentiel, parce que le débat en fait permet d'ouvrir un peu de donner un peu aux gens une façon de respirer, une façon de réfléchir, et c'est comme ça qu'on peut évoluer.
Vous avez des sœurs, Hamza?
Pas du tout, j'ai pas eu cette chance. J'ai un frère, et j'ai pas eu cette chance. Et je pense que si j'en avais eu, mes parents seraient d'avis à ce que l'héritage soit partagé de façon égale.
Alors, il y a aussi, bon, vous êtes loin de tout ça, bien sûr, mais il y a aussi la question du divorce. Pourquoi je vous pose la question ? Parce que quand on est père, j'ai eu l'occasion d'interviewer aussi des pères de jeunes femmes à ce sujet-là, par rapport au divorce, par rapport à l'héritage aussi, comprendre leur position et leur dire, OK, si demain vous n'êtes pas là, quel Maroc vous souhaitez laisser, en matière de droit, bien sûr, à votre fille, qui sera... à ce moment-là, femme, mère, etc. Si je vous posais la question à vous, Hamza, ça serait quel Maroc que vous voudriez laisser à votre fille ?
Un Maroc où il y a plus d'égalité sociale et plus de gender equality, je ne sais pas comment on peut dire ça en français.
Égalité des genres.
Où la femme n'est pas stigmatisée parce qu'elle est femme, où la femme peut avoir les mêmes droits et aussi les mêmes devoirs que l'homme.
Elle a les mêmes devoirs. On paye les mêmes impôts, on paye les mêmes taxes.
On est
soumis aux mêmes règles, aux mêmes lois lorsque on sort du cadre. Donc, on a les mêmes devoirs.
Mais on n'a pas. Mais les femmes n'ont pas les mêmes droits.
Droits. Dit Kéna, mais parce que vous avez dit soumises aux mêmes droits et aux mêmes devoirs. Les devoirs Kénine, c'est bon. On a coché les cases.
oui, tout à fait. Vous avez raison. Et en fait, c'est les mêmes droits qui posent problème effectivement. Et aujourd'hui, enfin, moi, j'espère que mes enfants vivront dans un Maroc où la femme peut avoir le même droit d'accès à l'éducation, le même droit d'accès aux services publics, le même droit d'évoluer dans des postes critiques. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que les postes de top management sont... Il y a une très, très grande partie qui est prise par des hommes. Et donc, voilà, j'aimerais bien que ce Maroc-là, que je laisserai à mes enfants, soit beaucoup plus juste aussi d'un point de vue héritage, d'un point de vue divorce, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a encore des sujets à ce niveau-là. Et heureusement que Sa Majesté vient d'ouvrir pour une deuxième fois cette modification, cette possibilité de modification de la Moudouana, qu'on espère que ça va aller dans le bon sens et dans le sens de plus de droits pour les femmes, comme ça l'a été la première fois.
Oui, absolument. Et justement, juste pour rappel, quelqu'un me disait dans version homme aussi, attention, un texte quand la Moudouana, par exemple, si elle est modifiée, les textes sont faits pour durer au moins 20 ans. Et donc, pendant 20 ans, on va vivre avec ces textes-là. Donc, cette personne disait, soyez vigilants par rapport au changement. Essayez de donner le maximum aux femmes, parce que sinon, ça ne pourra pas se faire avant 20 ans, en fait, au moins.
Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, on sous-estime l'impact de ces textes de loi sur la société, mais... il y a encore aujourd'hui, il y a encore des progrès à faire qui peuvent avoir un impact considérable sur la vie dans l'évolution de notre société, de notre pays.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on voit encore le mariage des mineurs oui. dans des régions reculées, ce qui est vraiment dramatique. C'est une honte pour un pays comme le nôtre. Donc, effectivement, si on fait évoluer la chose, il faut que ça évolue non seulement sur le texte de loi, mais aussi sur
la pratique.
Application,
oui.
sur la pratique et sur la compréhension de ce texte de loi. Ces textes de loi, malheureusement, par exemple, sur la première Moudouana, il y en a qui pensent que c'est contre l'homme. C'est pas du tout contre l'homme. C'est pour la femme, et quand on est pour la femme, c'est pas forcément, ça veut pas dire que c'est contre la femme. C'est pas binaire, c'est pas du 0 ou 1, c'est pas contre moi ou pour moi, mais en fait on peut avoir plus de droits pour les femmes, et ça touche en rien les droits de l'homme.
Pourquoi les hommes justement ont peur de plus de droits pour la femme, du point de vue de l'homme que vous êtes?
C'est une question à 1 million de dollars.
Je prendrai déjà 100 dollars, Mnendik, et on verra pour le reste.
Alors, moi, j'ai du mal aussi à comprendre la vérité. J'ai du mal à comprendre le pourquoi de la chose. Mais je pense que je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'est par sentiment d'insécurité, peut-être. Mais je saurais pas expliquer ça. Ce serait intéressant de voir s'il y a des sociologues ou des anthropologues qui peuvent se pencher sur la question et voir le résultat de leur recherche, parce qu'effectivement, ça peut nous éclairer sur la manière d'approcher la question.
Mmh. Hamza, vous êtes marié ?
Non.
Non ?
Pas du tout.
Pas du tout. J'allais poser la question par rapport à aujourd'hui tout ce qui est Sdark, etc. Comment votre génération perçoit ça ?
Alors, ma génération, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, comment je le perçois ? Moi, je pense que c'est une histoire qui, entre deux personnes qui veulent construire un avenir commun. Et c'est à eux de décider de la forme la plus appropriée qui peut symboliser leur union. Mmh. Et puis voilà, c'est une histoire entre deux personnes. Et je ne pense pas que la société ou l'État a à se mêler de ce genre de choses. Parce que voilà, c'est réducteur aussi pour la femme. Parce que, bref, c'est comme je peux sortir un peu de la question ou là.
Oui, bien sûr.
C'est comme l'histoire de Nafaqat al-Muta'a.
Quand il y a
le divorce, Nafaqat al-Muta'a, c'est très réducteur pour la femme.
Oui.
Et c'est parmi les choses, effectivement, à revoir, mais de fond en comble.
Parce que ça renvoie un message justement de disposition d'un objet.
Exactement. Mmh. C'est vraiment rendre la femme comme étant un objet, et non seulement un objet, mais un objet sexuel qui est là pour répondre aux besoins du grand homme du haut de sa tour d'ivoire. Donc non, il faut revoir ce genre de choses parce que ça n'a pas lieu d'être.
Eh bien, Hamza Al-Maraï, merci infiniment d'avoir accepté d'être ma version homme de femme d'aujourd'hui, d'ouvrir différents tiroirs d'échanges, de conversations autour de vous et de notre société.
Merci beaucoup, Yasmine. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.